Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, c'est à vous, en direct jusqu'à 20h55. Ravie de vous retrouver, ravie de retrouver toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir, ma bête.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Venue de rien, elle est devenue la reine de la nuit. Régine, c'était un dimanche, elle avait 92 ans et pendant plus de 30 ans, elle a fait danser toutes les stars du monde entier. C'est ce que disait Pierre Palmade.
Pierre Palmade, qui était son ami et qui sera dans un instant pour témoigner sur le plateau de C'est à vous. Mohamed, votre story ce soir.
Pour un grand projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel, la mairie de Paris annonçait vouloir abattre 22 arbres, dont 2 centenaires. Ce week-end, plus de 70 000 personnes se sont mobilisées contre cet abattage. La mairie de Paris prend la parole ce soir dans C'est à vous.
Avec des annonces à faire, probablement.
Une annonce très forte.
Jean-Baptiste, votre édito ce soir.
Un 1er mai, loin, très loin d'être traditionnel, que ce soit au Rassemblement National ou à la France Insoumise, sous fond de violences qui ont donné lieu à un face-à-face à distance entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon.
Des images qui ont choqué, notamment celle d'un sapeur-pompier agressé par une manifestante. On en parle avec le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Éric Brocardi, et de Stanislas Godon, délégué général du syndicat de Police Alliance. Bonsoir messieurs, merci de votre présence ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Toujours pas d'accord à gauche, l'interminable discussion, négociation. Alors en ce moment, ce sont les socialistes qui sont au siège de la France Insoumise. La nuit prochaine, les communistes. On va vous raconter tout ça dans le 5 sur 5.
Peut-être une fumée blanche d'ici votre 5 sur 5.
Ça m'arrangerait pas. Attendez 19h45. Si je suis complètement honnête, attendez 20 ans.
Non, il faudrait que ce soit dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard pour qu'on soit à fond sur l'info, cher Mathieu, à partir de 19h35. Et Pierre, dans votre œil ce soir.
On y retournera en 1995 avec la création de Paris Dernière, la fameuse émission de Thierry Ardisson, et ça n'est pas un hasard.
Ça n'est pas un hasard, parce que Thierry Ardisson est notre invité ce soir. Il a inventé un paquet de concepts et d'interviews à la télévision, une façon d'interviewer. Il revient ce soir à la télé sur France 3 en prime time. Il fait parler Dalida. C'est vraiment un objet télévisuel totalement inédit, une première au monde d'interviewer des disparus. Dalida est la première de ses invités. Et lui, notre invité bien vivant, à partir de 20h autour d'un dîner préparé ce soir par Michel Marini, chef étoilé du restaurant Le Champ des Lunes. C'est dans le Vaucluse à Loris. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Michel.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir. Ce soir, de la truite de la Sorgue.
Oui, alors aujourd'hui, on va faire une recette de truite de la Sorgue confite à l'huile d'olive, une salade de petites épeautres avec des herbes fraîches, des olives et des petits pois.
Il y a eu un de satisfaction du côté de Mohamed qui, bizarrement, se réjouit du menu de ce soir. Merci, chef. À tout à l'heure pour le dîner. Tout de suite, l'édito de Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, retour sur un 1er mai très particulier. Dans chaque camp, rien ou presque ne s'est passé comme d'habitude.
À l'extrême droite d'abord, pas un Le Pen à l'horizon pour présider la traditionnelle cérémonie qui rend hommage à Jeanne d'Arc. Non, à la place, celui qui est toujours président du Rassemblement National en ce moment, c'est Jordan Bardella, qui a bien dû tenter d'expliquer l'absence de Marine Le Pen. Alors elle devait se reposer, dit-il en substance.
Non, elle n'est pas là. Ça ne vous aura pas échappé qu'elle sort d'une campagne présidentielle qui a été éprouvante et qui l'a menée à rassembler près de 13 millions de voix. Donc elle se prépare dès maintenant à cette bataille des élections législatives.
Qui sèche le 1er mai, c'est rare, très rare. Alors, ce n'est pas tout à fait une première. Déjà, le 1er mai 2017, dans l'entre-deux-tours de la précédente élection présidentielle, eh bien, elle avait préféré à l'époque laisser le président du RN par intérim de l'époque, Steve Briouat, se charger de cette besogne. Il fallait alors lisser le discours le plus possible, cacher tout ce qui rappelait de près ou de loin le FN de papa.
Car l'hommage des Le Pen à Jeanne d'Arc, c'est une vieille tradition familiale.
Oui, c'est en 1988 que Jean-Marie Le Pen institue la fête de Jeanne d'Arc chaque 1er mai. Alors, défilé aux images souvent très radical, suivi du dépôt d'une gerbe au pied de la statue représentant la pucelle d'Orléans et place des Pyramides à Paris. Une tradition des images, des symboles qui sont en temps maintenant de faire oubliée. Depuis 2016, ce sont d'ailleurs d'autres statues de Jeanne d'Arc situées dans Paris qui sont fleuries par le RN, dédiabolisées. Toujours, c'est l'objectif. Mais cette absence, en fait, de l'ex-finaliste de la dernière présidentielle hier, eh bien, c'est surtout un signe de plus de la distance que veut prendre Marine Le Pen avec la gestion de son parti. Regardez, elle s'est contentée d'une petite vidéo enregistrée devant une forêt de bambous. C'est vraiment service minimum. Jordan Bardella pourrait d'ailleurs conserver définitivement la présidence du Rassemblement national à l'issue des élections législatives.
À la gauche de la gauche aussi, ce 1er mai était atypique.
Oui, vous savez, le défilé du 1er mai, c'est toujours un moment où on laisse les syndicats en première ligne. Les politiques se mettent plutôt en retrait, généralement discrets au fond du cortège, jamais en première ligne. Mais hier, un homme a accaparé ce défilé. Il s'agit bien sûr de Jean-Luc Mélenchon. Un 1er mai transformé en mini-meeting électoral. Alors c'était dans un coin de la place de la République, une petite estrade, et à 14h20, soit 10 minutes avant l'heure officielle du départ du cortège syndical, eh bien celui qui est arrivé 3e à la présidentielle prend la parole, entouré de ses proches.
Partout je passe, partout passent mes camarades. On leur dit « Ah, c'est bientôt le 3e tour, on se retrouve ». La consigne est passée, tout le monde a compris ce qu'on a voulu dire quand on a dit qu'il fallait que je sois le Premier ministre. J'ai vu un reproche qui m'a bien fait rigoler, hein. Qu'on fasse une élection pour dire qu'on va désigner le Premier ministre et commencer à mettre un peu de 6e République dans la 5e, non ?
Oui, lancer cette campagne des élections législatives, c'était vraiment ça l'objectif de Jean-Luc Mélenchon hier.
Jean-Luc Mélenchon qui a ensuite affronté à distance le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, alors à l'origine de ce face-à-face, il y a les très nombreuses violences qui ont une nouvelle fois émaillé ce défilé du 1er mai. Plus de 50 personnes interpellées, 8 policiers blessés et des images désastreuses en boucle dans tous les JT, notamment celle-ci. Ouais, un pompier agressé, frappé par une femme alors qu'il tentait d'éteindre un incendie de palette. Elle a été arrêtée, le pompier est indemne mais choqué, il a d'ailleurs porté plainte. Cette image a suscité l'indignation générale. Mais le député LFI des Bouches-du-Rhône n'a pas dit un mot sur cette agression. Avant de s'en prendre aux représentants de l'État dans la capitale, le préfet de police Didier Lallement lui reprochant d'avoir, en gros, laissez faire. Regardez, les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande de nos pires adversaires. Ras-le-bol, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix, écrit Jean-Luc Mélenchon. Réplique immédiate de Gérald Darmanin, qui s'est d'ailleurs rendu à la préfecture de police. Il demande au leader de la France insoumise de lever toute ambiguïté avec l'ultra-gauche.
Monsieur Mélenchon est aujourd'hui un peu le pompier pyromane. Il refuse à l'Assemblée nationale les moyens pour les policiers, il veut d'ailleurs les désarmer, il veut empêcher d'avoir du renseignement qui nous permet justement de prévenir un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, je regrette une nouvelle fois cette ambiguïté, ce double langage, et que Monsieur Mélenchon n'ait pas un mot pour les fonctionnaires de la République, pour les ouvriers de la sécurité que sont les policiers, les gendarmes ou les pompiers devant les agressions que l'on voit sur vos images de télévision. Je crois que une nouvelle fois, ça blesse ces fonctionnaires.
Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Évidemment, cette image, elle l'a choqué. Ce geste, il est d'autant plus incompréhensible que votre collègue était en train d'éteindre un feu qui aurait pu dégénérer.
Qui aurait pu très largement dégénérer. C'est vrai que la première image que l'on voit de cette personne qui frappe un pompier, elle est extrêmement choquante, elle est incompréhensible. On peut la parer de tous les adjectifs, mais c'est une incompréhension totale de s'en prendre comme ça à un service public qui est là pour protéger, secourir et sauver la population. On est dans une phase relativement simple d'une intervention, c'est reste un feu sur la voie publique où les sapeurs-pompiers doivent intervenir comme on le fait au travers de nos 4,3 millions d'interventions effectuées l'année dernière, soit une intervention toutes les 7 secondes. C'est presque une intervention classique, sauf que là ça dégénère parce que une personne vient directement agresser les sapeurs-pompiers. Alors les médias sont en général très friands de ce que c'est une agression de sapeurs-pompiers. Voilà ce que parfois on subit dans certaines zones, dans certaines même ruralités, parce qu'il faut dire, il faut le dire cela aussi, aujourd'hui les agressions concernent absolument tous les territoires. Et là, notre collègue de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, clairement, a été véritablement digne de sa posture et de sa position parce qu'il est resté dans l'axe de l'extinction, parce qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'était d'éviter que l'ensemble des fumées aillent dans les habitations ou tout simplement l'embrasement au niveau des façades.
Ça veut dire quoi, là, d'agresser un pompier en opération ? Ça veut dire que la fonction, la mission est de moins en moins respectée ?
Aujourd'hui, c'est souvent la question qu'on se pose, on s'attaque à un symbole. Le symbole de l'État, le symbole de la République. Aujourd'hui, la République, c'est nous. Ce sont les services de l'État qui mettent en œuvre tout ce qui est dans leur possible et leur pouvoir pour pouvoir rendre service à la population. Que l'on soit de la force des secours, et je me permets aussi de la force des sécurités, mais aussi toutes les forces administratives que l'on ne parle jamais, qui sont quotidiennement aussi agressées. Clairement, aujourd'hui, on se positionne de manière très visible sur une, on va dire, une mission vouée aux autres, et là, on nous empêche d'exercer la mission pour le bien-être et pour la protection de tous. Et c'est cela aussi qui est encore plus choquant.
Selon BFM TV, cette manifestante était street medic, c'est-à-dire ces militants qui soignent les manifestants. Vous pouvez nous confirmer, Stanislas Godon ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle avait un casque qui l'identifiait en tant que street medic. Ce sont, vous savez, cette petite corporation qui a été créée pendant notamment les manifestations de Gilets jaunes, qui devait secourir. Alors parfois, ils avaient un engagement au-delà.
Ça a été créé
au-delà.
Bien en amont, en 2016, à Nuit Debout.
Oui, mais c'était surtout, en fait, ils ont apparu pendant les Gilets jaunes. Parfois, ils avaient des actes un peu militants aussi sur le terrain, puisqu'ils empêchaient notamment les forces de l'ordre de travailler. Mais bon.
Il ne faut pas généraliser évidemment sur ces stricts médics, mais est-ce qu'ils vous aident ou est-ce qu'ils gênent les opérations de secours ou de maintien de l'ordre lors de ce type de manifestation ?
Parfois, il y a eu des aides qui étaient tout à fait justifiées, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis parfois, ils étaient en regroupement. Ils empêchaient aussi les forces de sécurité, par exemple, de faire des dispersions ou des bons offensifs sur le terrain pendant les manifestations de Gilets jaunes. C'est arrivé.
Cette manifestante a expliqué son geste ? Lors de sa garde à vue ?
Enfin, je ne suis pas malheureusement au plus près de la police pour le savoir, mais néanmoins, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les services des préfectures, quelles qu'elles soient, dans tout type d'organisation, sont organisés avec l'ensemble des forces de sécurité, l'ensemble des forces de secours, pour subvenir à tout moment, en fonction des scénarios qui sont proposés, à porter secours et à protéger et encadrer une manifestation. Les street medics, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc à partir de là, nous fonctionnons, nous, aujourd'hui, avec les sapeurs-pompiers. Nous fonctionnons avec les forces de police. Le reste, ce sont uniquement des gens qui viennent s'agréger autour de manifestations. Mais quand on me repose la question encore, est-ce que vous les reconnaissez ou pas ? Non, nous sommes voués à obéir au préfet de chaque département en fonction d'une direction précise, des directives opérationnelles particulières et nous ambitions.
Ils ne vous ont jamais aidé sur le terrain et à coopérer des blessés
Vous savez, c'est très complexe. Déjà, se prétendre de street medic, encore faut-il avoir les diplômes et les unités de valeur. Aujourd'hui, on pourrait se poser aussi la question de celle-là. Aujourd'hui, quand je porte un uniforme, quand quelqu'un fait l'effort d'aller se former au geste qui sauve, d'aller se former au premier secours de niveau 1, voire de niveau 2, c'est qu'il a l'intention réelle de pouvoir porter secours. Aujourd'hui, il n'y a rien qui le précise. Je continue dans la réflexion. C'est dire qu'aujourd'hui, si parfois ça empêche les forces, quelles qu'elles soient, de pouvoir progresser et protéger la population, ça peut devenir un handicap. Aujourd'hui, il y a des sapeurs-pompiers pour faire ça. Nous avons nos collègues de la police aussi pour pouvoir protéger les populations. Aucun autre substitut jusqu'à nouvel ordre.
Jean-Baptiste.
Non, effectivement, comment vous réagissez en tant que force de l'ordre et qu'est-ce que vous demandez surtout face à ces actes qui se multiplient ? On voit effectivement de plus en plus violents. Vous, en tant que policier, vous êtes également visé par ce genre d'actes de plus en plus.
Alors, c'est bien qu'on soit tous les deux sur le plateau parce que, vous savez, les policiers et les pompiers sur le terrain, ils le constatent depuis pas quelques semaines, depuis des mois, des années, cette recrudescence de la violence, parfois des guet-apens qui sont organisés où on met le feu, on attire les policiers. Évidemment, les policiers sont présents et, en fait, on commence à canarder les policiers et les pompiers sans distinction autre que l'uniforme que chacun porte. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il va falloir vraiment mettre un terme. Et nous, on dit très clairement qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, qu'on ait une réponse pénale extrêmement ferme contre tous ceux qui s'attaquent à l'uniforme. Et toutes les formes d'attaque à l'uniforme. Ça va de l'outrage, ça va du crachat, de l'insulte, jusqu'au caillassage. Parce qu'il n'y a pas de petite infraction. Et il faut bien se dire que lorsqu'on ne traite pas les petites infractions, les grandes infractions arrivent juste derrière et très très rapidement.
Mais vous entendez ce que dit par exemple Jean-Luc Mélenchon quand il attaque Didier Lallement, le préfet. En gros, il vous dit, vous avez laissé faire ce genre d'attaque, ce genre effectivement d'incident, peut-être pour cacher, pour minimiser un petit peu l'organisation syndicale. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Eh bien, M. Mélenchon est encore dans toutes ses contradictions parce que c'est le même qui nous disait qu'il ne fallait surtout pas que les policiers soient en flangardage, c'est-à-dire qu'ils soient au plus près des manifestants pendant les manifestations. Il ne fallait surtout pas que les policiers fassent des interventions avec des nassages quand, par exemple, on veut isoler des groupes d'individus. Il est contre tout ça. Donc après, il ne faut pas un moment qu'ils disent « vous ne devez pas intervenir » et puis deux semaines plus tard de dire « il faut intervenir ». Il faut être un moment cohérent avec le maintien de l'ordre. Si on doit intervenir au milieu des manifestants, parce que vous savez, les Black Blocs, ils sont très très malins. Ils se mettent en plein milieu, ils s'équipent en plein milieu des manifestants.
Mais ils sont repérables, comme vous les connaissez, les Black Blocs.
Au départ, ils ne sont pas repérables, parce qu'évidemment, ils arrivent, ils ne sont pas en noir.
Et les après, autorités avaient prévu la présence de 300 casseurs d'extrême gauche. Ils ne sont pas repérables.
Dire qu'il y a des Black Blocs qui vont arriver, ça ne veut pas dire que vous pouvez intervenir et faire n'importe quoi. Si vous faites un bond offensif et que vous avez des dommages collatéraux, vous allez blesser d'autres personnes qui sont des manifestants qui souhaitent manifester pour tout simplement le 1er mai. Donc il faut user de la force avec parcimonie. Et contrairement à ce qu'on a entendu depuis des mois et des années, les violences policières, ce n'est pas un truc systémique. Justement, nous, on a l'usage de la force légitime et on en use de manière proportionnée par rapport à la situation qu'on doit gérer sur le terrain.
On se dit quand même que tous les ans, on voit ce genre d'image, qu'on n'arrive pas à maintenir l'ordre, en tout cas une manifestation calme en plein Paris. Alors, tous les 1er mai. C'est ça qui est étonnant.
On en a eu dernièrement. C'est vrai, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations où, effectivement, les pompiers ont été aussi pris à partie. Et malheureusement, c'était encore dans le cadre d'une manifestation. Ça se fait aussi de manière, on va dire, très isolée dans certains territoires de la France. Ces agressions-là, on essaie de les freiner, on essaie de, à un moment donné, de porter à un moment donné des solutions, qu'elles soient technologiques, comme le port de la caméra, piéton directement aujourd'hui sur les sapeurs-pompiers. Ils sont même parfois aujourd'hui équipés de gilets pare-lames. Nous intervenons avec nos collègues policiers dans des zones qui le nécessitent, parce qu'on a détecté à un moment donné un doute sur notre capacité à garder notre intégrité et surtout celle des véhicules. Parce qu'au-delà de l'humain, il y a aussi derrière le véhicule qui est concerné, il y a aussi un vecteur de secours qui va être pénalisé, une caserne. Vous savez, en France, c'est 250 000 pompiers, c'est 80% sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire qu'en plus de leur temps professionnel et personnel, ils donnent du temps pour donner de la disponibilité et effectuer ces interventions toutes les 7 secondes. Donc clairement, aujourd'hui, ça veut dire que si on ampute une petite caserne d'un centre rural de son VSAV, et que vous en avez réellement besoin, qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'une crise cardiaque avérée pendant qu'on est en train justement d'aller porter plainte face à une agression, en train de justement d'aller réparer une ambulance parce qu'elle a subi des jets de pierre? C'est pas ça aujourd'hui ce que l'on cherche. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est apporter encore des solutions, comme on l'a fait jusqu'à présent dans différentes lois avec le gouvernement.
Les policiers qui ont d'autres motifs d'inquiétude actuellement, ils étaient dans la rue aujourd'hui après la mise en examen d'un policier pour la mort de deux frères le soir du deuxième tour sur le Pont Neuf à Paris.
Plusieurs manifestations de syndicats de police en France. À Paris, le rassemblement avait lieu place Saint-Michel en plein centre de Paris, à quelques mètres du Pont Neuf. Le Pont Neuf, c'est là que le dimanche 24 avril, un policier a tué deux hommes qui tentaient de fuir un contrôle de police. Depuis, deux enquêtes ont été menées, dont une menée par l'IGPN, la police des polices. Conclusion, si la voiture fonçait bien sur les fonctionnaires de police, les angles de tir posent la question de la légitime défense. Le policier de 24 ans a donc été mis en examen pour homicide volontaire et c'est précisément ce que dénonçaient ces manifestants au micro de Camille Schmitt.
On se retrouve aujourd'hui qu'un policier qui est accusé d'homicide volontaire alors qu'il n'a fait que son travail de protéger ses collègues, lui-même et la société.
Le véhicule fonce sur notre collègue policier. Ce collègue-là riposte et c'est le seul juge sur la voie publique. On n'était pas là à sa place et il n'a que quelques secondes pour le faire. Donc la légitime défense doit être systématiquement reconnue dans un premier temps.
Aujourd'hui, on conteste cette qualification. Il n'y a aucun policier aujourd'hui qui se lève le matin en se disant « je vais aller abattre des personnes dans la rue ». Non, ça n'existe pas, on n'est pas des cow-boys.
Alors, beaucoup de colère pour les policiers. Il faut aussi regarder leur malaise qui se traduit sur les slogans. Coupable d'être flic, se faire condamner ou se faire tuer. Pour eux, la crise est plus profonde. Écoutez.
Aujourd'hui, vous avez une justice qui, non seulement ne condamne pas assez fermement les délinquants, les criminels et tous ceux qui portent atteinte à l'uniforme. On l'a vu hier, par exemple, lors du cadre des manifestations du 1er mai. On a maintenant des pompiers qui sont victimes de violences. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est que la justice frappe un grand coup et montre qu'elle veut sanctionner fermement tous ces actes envers tous ceux qui portent un uniforme.
Ce que vous réclamez, c'est la présomption de légitime défense ?
Oui, entre autres, puisqu'en fait, c'est inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à un policier de prouver qu'il est dans le cadre légal de l'usage des armes ou de la légitime défense. D'autre part, ce qui a fait bondir effectivement les policiers, c'est que cette qualification, qui est assez inédite, on a interrogé des avocats, des magistrats, homicide volontaire, c'est-à-dire que ce collègue-là, quelques jours avant, il sauvait quelqu'un de la noyade, et aujourd'hui, il a une étiquette de meurtrier. Et quand certains nous expliquent, mais on part de la qualification la plus haute, et après on va baisser en fonction d'enquête, oui, mais entre-temps, la lessiveuse judiciaire, c'est lui qui l'a subi. Et je peux vous garantir que pour un policier, être avec l'étiquette de meurtrier de 24 ans. être avec l'étiquette de meurtrier pour un policier, il y a quelque chose qui est complètement contradictoire.
Il n'a pas l'étiquette de meurtrier. C'est présumé innocent, hein, Stanislas.
Présumé innocent, mais pour l'instant, c'est le meurtre qui est retenu. Pour l'instant. La qualification, au-delà d'ailleurs des réquisitions du parquet, ça c'est important de le rappeler. Donc les juges, les magistrats instructeurs sont allés au-delà des réquisitions du parquet. Et nous, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à comprendre, surtout quand on connaît le contexte. Ce véhicule qui fonce notamment sur les policiers, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ce véhicule, je le rappelle, qui est Pont-Neuf, qui est à contresens, qui est des Orfèvres, qui est à proximité d'un procès, notamment le procès des attentats. Donc ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit pour bien comprendre que le policier, quand il est sur le terrain, il a une fraction de seconde et il a tout ça à mettre en œuvre.
Vous ne faites pas confiance à la justice ?
Alors, la confiance en la justice, c'est pas ça. C'est que là, en l'occurrence, elle part de la qualification la plus haute, alors qu'elle pouvait très bien rester...
Mais c'est pas un jugement, mais vous ne faites pas confiance à la justice pour...
Mais il va y avoir une enquête. Alors d'ailleurs, contrairement à ce qui est dit, nous, on ne remet pas en cause le fait qu'il y ait des enquêtes lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a usage de la force par les policiers.
C'est normal.
Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la mise en examen avec ces qualifications-là, au vu du contexte et des témoignages que l'on a...
Ce sont les conclusions des deux enquêtes qui ont été menées.
Alors, ce ne sont pas les conclusions des enquêtes. Les enquêtes ne font que commencer. Heureusement, l'instruction, j'espère qu'elle va vite faire la lumière sur les éléments contextuels.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu enquête, l'enquête a débuté.
Non, mais l'enquête, elle est au début. Mais par contre, vous savez, on a quand même un peu de moyens quand même pour vérifier certaines choses. Et donc, nous, on ne comprend pas cette qualification d'homicide volontaire, meurtre, alors que le contexte, je rappelle qu'il y a quand même un texte de 2017 avec l'article 435-1 qui dit que lorsque vous n'avez pas d'autre solution pour immobiliser un véhicule qui est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique, vous pouvez faire usage de l'arme.
Stanislas Godon, député général du syndicat Alliance Police Alliance, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Merci à tous les deux. Vous restez juste le temps de la story de Mohamed Bouafsi. Ce n'est pas un sujet qui concerne les pompiers ni les policiers, mais ça vous fait réagir parce que vous êtes des citoyens hein, tous les deux. La ville de Paris va-t-elle raser deux arbres centenaires au pied de la Tour Eiffel ?
Oui, vous le découvrez à l'écran, le projet Grand Site Tour Eiffel, un réaménagement des abords de la Tour Eiffel qui vire en partie au cauchemar pour la mairie de Paris. La ville a validé des travaux en vue des JO de Paris 2024. Il vise à installer sous la Dame de Fer des restaurants, kiosques, et bagagerie, problème, ce projet nécessite l'abattage de 22 arbres. Certains sont centenaires et remarquables.
Cet arbre-là, vous voyez, il a été planté en 1814 sous Napoléon Ier, donc ça fait plus de 200 ans qu'il est là. Et cet arbre, en fait, il va se trouver à 1,50 m, peut-être 2 m du bâtiment construit. Ses racines, elles vont être soit tronçonnées, soit recouvertes, et donc elles vont être détruites. Cet arbre, à terme, on est quasiment sûr qu'il va mourir. Ça va peut-être prendre un an, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le condamné que de construire ce bâtiment.
Le bâtiment, en fait,
il va commencer ici. Donc il est vraiment, vous voyez, le houppier, c'est-à-dire l'ensemble des branches et des feuilles, qui est très très large, il faut comprendre que les racines vont aussi loin que ça.
Plusieurs associations comme SOS Paris ou encore France Nature Environnement ont lancé une pétition qui a déjà réuni plus de 70 000 signataires. La mairie se justifie en expliquant que 227 nouveaux arbres seront plantés dans ce grand projet. Une réponse qui ne calme pas les opposants.
Les arbres qui sont matures, qui ont cet âge-là et qui sont aussi grands que ça, ils apportent une trentaine de fois plus de bénéfices qu'un tout petit arbre rachitique qu'on vient de planter. Les arbres qu'on plante actuellement, ils se développent beaucoup moins bien que ceux qu'on a plantés il y a 50 ans. Donc les petits arbres qu'on plante aujourd'hui, un sur deux à peu près, ils crèvent. Donc dire qu'on va replanter plein d'arbres, non seulement une bonne partie va crever, mais en plus ces arbres, ceux qui vont survivre, ben, c'est pas maintenant qu'on va en profiter, c'est dans 50 ans, 70 ans, 100 ans.
L'opposition, elle, fulmine autour de ce projet. On critique un budget initial de 40 millions d'euros qui atteint désormais 107 millions. Rachida Dati est la maire du 7e arrondissement où se trouve le monument. Pour elle, Anne Hidalgo est en train d'arracher la Tour Eiffel aux Français, aux Parisiens, pour la vendre aux touristes étrangers.
Le site du Champ de Mars n'appartient pas à Mme Hidalgo. Elle a souhaité mettre en vente ce site du Champ de Mars. Et ce n'est pas la première fois. Et donc, elle préfère livrer à ce site historique, patrimonial, qui appartient pas qu'aux Parisiens, qui appartient aux Français. Elle le met en vente à un tourisme de masse qui va venir de plus en plus dégrader ce site. Nous avons réussi à faire reporter, à faire différer. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser faire. J'ai cherché dans les comptes de la mairie de Paris, notamment dans les recettes, ici, les arbres vendus, parce qu'ils sont vendus, où étaient les recettes? Elles sont introuvables et la mairie de Paris ne nous donne pas de réponse.
Ce projet met aussi dans l'embarras des élus écologistes qui avaient permis son adoption au conseil municipal. Face à la colère des Parisiens, après avoir étudié le sujet tout le week-end, la mairie de Paris annonce un engagement fort au micro d'Iban Raïs et d'Anaïs Recouli pour cet aveu.
On a bien vu que ce sujet de sensibilité aux coupes d'arbres était important. C'est tout l'objet de la concertation, de l'écouter, de le prendre en compte. Et donc, d'ores et déjà, on a, sur les 42 arbres qui étaient anticipés pour être coupés, baissé ce chiffre à 22. Et avec la maire de Paris, nous avons réorienté le travail des équipes pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun arbre abattu. C'est un peu la philosophie de l'urbanisme que nous portons. C'est de s'adapter aux contraintes, s'adapter à la nature plutôt que l'inverse. Ce n'est pas forcément dans le logiciel habituel de l'aménagement urbain. Il y aura des sacrifices à faire et clairement, ce n'est pas les arbres qui en seront victimes, les arbres seront sauvés.
Emmanuel Grégoire, premier adjoint de Anne Hidalgo, annonce ce soir dans cet aveu que les arbres ne seront pas abattus. Et tous les arbres, pas seulement les arbres centenaires. Stanislas Godon, l'une des raisons de ces travaux, c'est aussi l'ambition, la volonté de la préfecture de Paris d'éloigner les passants, les touristes de la Tour Eiffel, parce que c'est un endroit qui est très sécurisé pour des raisons liées aux attentats terroristes. C'est aussi une bonne raison d'éloigner les Parisiens de cette Tour Eiffel.
Je ne vois pas le rapport entre les arbres et la sécurité, notamment autour de la Tour Eiffel. Alors, c'est vrai que le site de la Tour Eiffel, c'est un lieu touristique. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grande baie vitrée qui avait été créée tout autour, notamment...
Qui avait entraîné la suppression d'arbres aussi.
Exactement, exactement. Et qui, effectivement, était là pour créer un espèce de périmètre où vous avez un filtrage qui peut s'opérer. Après, de là avoir cette ambition de supprimer tous les arbres pour des questions de sécurité, j'ai du mal à faire le lien, même si le site, effectivement, c'est un site qui est bien connu, puisque quand Daesh avait lancé des appels à attaquer notamment les intérêts français, il y avait effectivement la Tour Eiffel qui était mentionnée.
Merci beaucoup Stanislas Godon, merci Éric Brocardi d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Ainsi était Régine, un hommage du Premier ministre Jean Castex, de Lynn Renault à la Reine de la Nuit, du chanteur de Culture Club Boy George à la diva française et du New York Times à sa une, qui rappelle l'incroyable destin de la créatrice de la première discothèque au monde, qui a régné sur un empire de boules à facettes, chanteuse, comédienne, femme d'affaires, ambassadrice de la nuit, qui n'aimait pas dormir.
Moi, j'ai toujours voulu vivre la nuit. Vous savez, quand j'étais gamine, je me pinçais pour rester réveillée la nuit, parce qu'il me semblait qu'il se passait des choses ahurissantes. Quand je m'endormais, je me réveillais en sursaut. Je crois que j'ai pris l'habitude de rester comme ça, éveillée. J'aime pas dormir. D'abord, c'est perdre une grande partie de son existence. On dirait qu'il y a des gens qui ont besoin de sommeil, comme de respirer. Alors ça, je le comprends très, très bien. Mais pour moi, si je dormais 12 heures, ou 10 heures, ou 8 heures même... Ça serait 3 heures de perdu.
Bonsoir Bertrand Dical, journaliste à France Info.
Je vais te faire un très beau tweet.
Pour l'actu, c'est les samedis et dimanches sur cette radio. Pierre Palmade, ami proche de Régine, on est heureux de vous accueillir tous les deux, vous qui étiez dans les petits papiers de Régine. Pierre, vous en étiez très fier. Régine aimait la nuit, un moment où les gens sont plus fragiles, plus ouverts à l'émotion, à l'amitié. Elle était votre confidente, comme celle de beaucoup d'artistes.
Oui, Régine, elle tenait des boîtes de nuit jusqu'au petit matin et elle avait les confidences de tout le monde, beaucoup d'artistes. Et on s'épanche parce qu'on boit et puis on raconte nos secrets, on raconte nos vies. Et Régine, elle vous écoutait, même quand vous étiez bourré, elle estimait que vous aviez quelque chose d'intéressant à dire. Mais c'est vrai, c'était la seule qui vous regardait. Sans juger. Et d'ailleurs... C'était la seule que j'appelais quand j'étais vraiment bourré parce que je savais qu'elle allait m'écouter.
Disait que vous l'appeliez parfois au milieu de la nuit et elle décrochait toujours.
Je n'étais pas le seul. Elle avait les confidences de Gainsbourg, elle avait les confidences de et elle s'en souvenait. Et...
Oui, c'est-à-dire qu'elle les prenait au sérieux, elle s'en souvenait.
Oui, elle estimait que quelqu'un d'intéressant était intéressant tout le temps.
Toujours disponible, énergie inépuisable, malgré des nuits très courtes parce qu'elle dormait très peu.
5 heures, ça lui suffisait. Mais vous savez, elle fermait sa boîte à Paris. Elle prenait le Concorde et elle allait fermer sa boîte à New York. C'était hallucinant.
Une vie incroyable quand même.
Vous savez comment elle a rempli sa boîte à New York? Parce que petite Française, pas beaucoup de chance de remplir une boîte de nuit à New York. Elle demande à Mick Jagger de venir à la porte d'entrée mal habillé. Il vient à la porte d'entrée, il sonne et elle le refuse. Parce qu'il est marqué « tenue correcte exigée ».
C'est génial.
Et le lendemain, il est marqué « Régine, la boîte qui a refusé Mick Jagger ».
Mais c'est la meilleure publicité du monde. Reine de la nuit, ce surnom, il lui va à merveille, Bertrand Dical. Il n'y a pas un patron de boîte de nuit aussi connu de tous et dans le monde entier. D'ailleurs, le New York Times lui rend hommage à sa une aujourd'hui. Ouais. Oh.
Mais parce qu'il y a des patrons de boîte de nuit qui ont gagné plus d'argent, qui ont parfois été plus...
puissant en termes commerciaux. Mais d'abord, elle est une des... Elle a contribué à inventer cette idée-là. Il y a quelque chose qui nous paraît complètement martien aujourd'hui, c'est que pendant des générations et des générations, qu'on soit pauvre ou riche, on ne pouvait pas danser sur des disques, ça ne se faisait pas. Et elle a c'est inventé whisky la à gogo. Une fois que l'orchestre est parti vers 1h, 2h du matin, elle dit au patron, mais on va passer des disques, on va rester avec les derniers, et puis vous allez voir. Elle avait bricolé le jukebox. Et puis, en 1956, elle crée chez Régine, qui est la première vraie discothèque parisienne où on ne danse que sur des disques, il n'y a même pas d'estrade pour un orchestre, et tout le monde est là. Et c'est vrai que ses capacités d'amitié et d'empathie sont complètement dingues, parce que quand on voit le casting d'une soirée chez Régine, quand on lit la presse People de l'époque, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'au début, il y a Salvador, Eddie Constantine, toutes les vedettes de l'époque, il y a même Yves Montand qui n'aime pas les boîtes de nuit, qui passe de temps à autre. Et puis dans les années 60, elle a Gréco, elle a Rudolf Nureyev, elle a Johnny Hallyday, elle a Charles Aznavour, elle a Georges Pompidou, avant qu'il soit Premier ministre. Elle a un certain nombre d'hommes politiques. Elle a un certain nombre, alors on le disait, elle a un certain nombre de grands flics aussi qui viennent, mais aussi de chefs d'entreprise. Et elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise de province qui viennent. Et elle leur dit, et elle leur dit toujours, bah tiens, écoute ce morceau, c'est ça, c'est pas sorti. Quand tu vas rentrer à Clermont-Ferrand ou à Limoges, le disque n'y est pas. Il y sera dans un mois. Donc, les types reviennent et disent, je reviens de Paris, j'ai écouté un nouveau groupe, ça s'appelle les Rolling Stones, c'est formidable, etc.
Oh là là.
Et c'est elle qui a lancé le twist. C'est ça qui est fou. Elle revient de New York avec un disque, elle le passe dans sa boîte, elle lance le twist.
Elle lance le twist. On va voir, je crois, des images de twist. Vous voulez dire quoi,
Pierre ? Non, détentrice d'un nombre de secrets, le nombre de gens qui se sont rencontrés chez Régine. Alain Delon a rencontré Nathalie Delon chez Régine. Elle a caché des amants célèbres. Voilà. Et puis, elle vous racontait... Elle dit, oh là là, Marlène m'énervait chaque fois qu'elle venait dîner à la maison, elle passait derrière moi pour refaire la recette, c'était Marlène Dietrich.
Ah oui.
C'était tout simplement ça.
C'est normal. Votre rencontre la plus improbable, vous avez croisé des hommes politiques chez Régine ?
Non, moi je fais partie de la dernière partie de la vie de Régine, c'est-à-dire à partir des années 90. Moi je lui faisais beaucoup raconter sa
ces
vie d'avant.
Ces histoires-là, oui. Elle était venue d'ailleurs sur le plateau de C'est à vous, c'était en 2016, aux côtés d'Edouard Baird, et elle nous avait raconté quel avait été son véritable premier établissement ouvert. C'était ni le whisky à gogo, ni chez Régine, ni le Jimmy's. Non, c'était un autre établissement dont vous n'aviez pas entendu parler.
Qu'est-ce que c'est ? Oui, mon premier club privé, c'était un arbre pendant l'Exode. J'avais fait un énorme trait, j'avais mis des cailloux, et puis il y avait une porte, et je disais, personne ne rentre ici sans mon autorisation.
Vous étiez déjà physio ?
J'étais déjà physio, j'étais déjà dame pipi, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui faisaient pipi derrière l'arbre. Enfin, je veux dire, c'est drôle, parce que j'ai toujours eu cette envie de faire la fête avec des gens.
Sa première boîte de nuit, c'était un arbre sur la route d'Exode qui l'amenait de la Belgique à la France. On peut dire qu'elle est partie de rien, Pierre, avec sa boule à facettes et sa gouaille.
Mais oui, 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 c'était une petite juive qui s'est cachée pendant la guerre, qui est passée à ça des rafles de Klaus Barbie. Elle était allée livrer de la nourriture pour les prisonniers dans la commande en tour. Et au dernier moment, c'était les rafles de Klaus Barbie dans Lyon. Il y a des jeunes Allemands qui l'ont empêché de sortir de la commande en tour pour la sauver, parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient du mauvais côté. Pour l'empêcher, elle croyait qu'elle était faite prisonnière, alors qu'en fait, ils l'empêchaient d'aller se faire rafler par Klaus Barbie. Et elle rêvait de rencontrer des stars. Elle avait lu Autant d'emporte le vent. Elle les a rencontrés. Elle rêvait d'être chanteuse. Elle a été chanteuse. Et elle a connu le monde entier. Moi, je me souviens de Lisa Minnelli qui disait « Oh, Régine !» Elle m'a présenté Bruce Willis. Elle avait tout le monde au téléphone. Et voilà, Régine était connue partout.
Régine, qui a construit un empire.
Qui a construit un empire.
C'est une vraie femme d'affaires.
Une vraie femme d'affaires. Alors, elle a non seulement créé des chez Régine partout. Ce qui est le plus fou, bon, qu'elle en crée à Rio de Janeiro, à New York, à Los Angeles, à Genève. Oui, bien sûr, mais à Kuala Lumpur, au Caire. Elle a créé un chez Régine au Caire, pas duré extrêmement longtemps, qui a duré quelques années. Mais, et puis, elle a créé toutes sortes de produits, toutes sortes des vêtements, des cosmétiques, des parfums, toutes sortes de choses qui sont passées plus ou moins vite. C'était une femme d'affaires, mais comme elle le disait, elle dépensait beaucoup. Elle n'était pas toujours extrêmement douée dans ses choix d'affaires. Elle arrachait le Palace, par exemple, en 92, ce qui était peut-être
pas la meilleure idée. Et puis, elle faisait la fête. Elle ne faisait pas que gérer les boîtes. Elle dansait aussi sur la piste.
Comme elle Vraiment ? Elle disait qu'elle vivait au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire que son appartement était au-dessus de sa boîte, et ce qui permettait d'ailleurs d'exfiltrer des couples, des confidences, etc.
Et ça, c'est la partie marrante de Régine, mais vraiment, plongez-vous dans la discographie de Régine, parce que c'est une chanteuse réaliste et populaire incroyable. Tous les plus grands auteurs-compositeurs ont écrit pour elle.
On y vient.
Justement, la grande Zoa, elle préférait qu'on l'appelle comme ça plutôt que la reine de la nuit, référence aussi à la figure du travesti qui résume aussi Régine. Chanson qu'elle chantait aux Folies Bergères donc en 2004, et c'est un spectacle que vous aviez mis en scène.
Oui, j'ai eu cette chance-là. Il y a un extrait ?
Oui, oh, on vient le mardi, la grande Zoa, et ses bijoux, ses chagis.
Séance de répétition pour Régine à l'Espace Cardin, sous l'œil du metteur en scène Pierre Palmade.
C'est vraiment il y a 2 ans et demi où elle m'a dit « Oh, ça me plairait peut-être de remonter sur scène. » Je dis « Oh, ça me plairait de vous écrire peut-être un petit texte. »
Je ne porte plus les disques, je me trouve très très bien. Les portes qui claquent, les mots qui frappent, tes mains qui me tapent, salaud.
Quand on vient à Paris, il faut voir la Tour Eiffel et Régine.
Elle a chanté, elle aimait la scène. Il faut dire qu'en 2016, 87 ans, elle interprète encore ses plus grands succès aux Folies Bergères. C'était génial.
J'avais, je ne sais pas, 100 chansons à choisir. Il fallait que j'en choisisse 15. Donc, il fallait les plus drôles, c'est-à-dire les délires de Gainsbourg. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. C'est quand même, il fallait chanter quand même. Hein, je voulais deviner le thème. Les femmes, ça fait péder. Et puis après, les petits papiers. Un jour, je quitterai tout. Diaspora, Azoy. Il fallait choisir des plus belles aux plus drôles. Et la faire parler entre les chansons, parce qu'elle était drôle, elle avait une gouaille, elle était cash. Il y a des gens qui l'ont connue, qui l'ont découvert dans la ferme célébrité.
Oui.
Parce qu'elle était bon, d'abord, elle était très crue. Elle appelait un chat. Hein, et ce spectacle, c'était un bonheur. Je crois que c'est une de nos dernières chanteuses réalistes. Chanteuses réalistes étant des gens qui ont une voix puissante, pas toujours juste, mais puissante, forte, et qui raconte la vie, mais alors avec une authenticité, la vie de la rue, quoi.
Pierre. On ne va pas se priver d'écouter les petits papiers, puisque tu l'évoquais d'un mot, qu'elle chante en 1965 dans Discorama.
Un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent.
Comment elle est née cette chanson, Bertrand ?
Alors en fait c'est une commande de Régine qui, d'abord quelques copains dont Salvador et Aznavour lui donnent des chansons, il en faut 12, elle veut faire un spectacle. Donc elle en demande une à Gainsbourg, qui est un vieil ami, qui est un vieux copain. Ils se connaissent depuis le temps où elle est au Whisky à Gogo, lui au Miller Larsouille. Et effectivement, il lui griffonne ça très vite. Mais la chanson, elle a tout un sous-texte.
Ben oui.
D'abord, effectivement, nous on a dans l'oreille le piano punaise qui rappelle les années 20, un peu comme dans les arrangements de la Grande Zoa. Mais en fait, c'est une mélodie yiddish pour l'essentiel. Et donc il y a des versions qu'elle a enregistrées effectivement avec violon et orchestre yiddish. Et un jour, Gainsbourg, dans une discussion avec un journaliste, mais hors antenne, quand il lui parle des petits papiers, il lui dit bah, « je l'ai fait, mais en même temps, il y a un moment, on en a manqué de papier. »
Et oui, tous les deux pendant la guerre.
Et tous les deux, ils sont liés par cette histoire des Juifs de France sauvés par des justes, par en l'occurrence des justes allemands pour ce qui concerne Régine, des justes français pour ce qui concerne Gainsbourg. Et ils étaient liés toujours par cette histoire-là, par ce traumatisme d'enfance qui faisait une complicité d'oiseaux de nuit. Et c'est vrai que si on les rapproche l'un de l'autre, grand buveur, grand fumeur, grand fêtard, incapable de se coucher, grand séducteur, et puis ce mélange qu'on souligne peut-être pas assez parce qu'on n'a plus l'habitude de l'accent parigot, mais c'est que Régine, elle a cette particularité. Tout le monde sait qu'elle est de la jet set, qu'elle fréquente les hommes politiques, qu'elle fréquente le monde entier, qu'elle fréquente tous les people, qu'elle mange du caviar à la louche, qu'elle fait la fête tous les soirs avec la meilleure vodka et le meilleur champagne, mais elle parle avec un accent parigot et un accent faubourien qui fait sa popularité. Et quand on disait tout à l'heure qu'elle était la reine de la nuit, parce qu'aucun patron de boîte, aucun personnage de la nuit n'a incarné ça, c'est qu'elle est effectivement la fête la plus exclusive et un personnage populaire. Dès qu'elle est à la télé, dès qu'elle est à la radio, plein de gens savent qu'ils n'iront jamais chez Régine, qu'ils n'ont pas les moyens, que le caviar, ils ne connaissent pas. Mais en même temps, ses blagues, son humour, sa façon de parler, son aplomb...
Mais elle avait du public, d'ailleurs, parce qu'il y avait la Régine populaire où tout le monde venait danser, chez qui tout le monde venait danser. Et puis, un public un peu même intello, presque de gauche. C'est pour ça qu'elle fait la une de Libé, même aujourd'hui, parce que la chanteuse réaliste, quand elle chante au Bouffe du Nord, elle est prise très au sérieux. Et pour les petits papiers, ne vous privez pas d'écouter la version anglaise de Little Papers, mais chantée avec cet accent-là, hein, de Régine.
C'est vrai,
de Little Papers, qui était traduit par Mort Schumann. C'est.
C'est génial. Régal. Elle ne faisait aucun effort pour prendre l'accent.
Mais aucun, zéro. Et elle avait bien compris qu'il valait mieux faire rire.
Exactement, ouais. Elle avait bien compris ça.
Et c'est ça la grande classe, souvent, des Français qui marchent à l'étranger, de Édith Piaf, Aznavour ou Régine, c'est qu'ils ne cachent pas être Français. Ils n'essaient pas de se faire passer pour les Américains.
Et Lynn Renaud.
Avec son accent français.
Pierre, votre chanson préférée de Régine ?
J'ai, bien sûr, toutes les chansons rigolotes m'amusent, celle de Gainsbourg, mais on commençait le spectacle avec une chanson testamentaire qui s'appelle « Un jour, je quitterai tout ».
On écoute quelques notes et vous nous expliquez pourquoi vous l'aimez.
Un jour, je quitterai tout. Un jour, je disparaîtrai. Pour une poignée de soleil. Pour quelques heures de sommeil. Un jour, je quitterai tout. Les bruits qui vous rendent fou. Les nuits blanche l'alcool flatteur, les chaînons en forme de cœur.
Magnifique chanson.
Ouais.
Et c'est comme ça que vous commenciez le spectacle?
Oui, parce que je trouvais ça drôle. Elle chantait cette chanson comme ça, qui plombait, parce que c'était très testamentaire. Aujourd'hui, elle prend évidemment tout son poids. Et juste après la chanson, elle disait... C'est gay comme début de spectacle.
Et elle adorait cette
chanson. On passait au rire.
C'était parti. C'était Régine et Pierre Palmade associés aux Folies Bergères. C'était en 2006. Merci beaucoup,
2004,
Pierre
Palmade. Oui.
2004, voilà. Bon, je me suis trompée de temps, pardon. Je rappelle juste que vous serez au Festival de la Correspondance de Grignan du 5 au 9 juillet avec Éric-Emmanuel Schmitt comme directeur artistique. Ces chansons qu'il faut l'actu, on adore écouter ces chroniques, cher Bertrand. Et puis le 24 août prochain, avec Anne-Sophie Le Mercier, vous publierez Serge Reggiani, La nostalgie est toujours ce qu'elle déteste, aux éditions de l'Observatoire. On parlait de Serge Reggiani avec Pierre Yass.
Qui est centenaire ces jours-ci.
Oui, aujourd'hui.
Aujourd'hui.
C'est incroyable, oui, c'est vrai, c'est le 2 mai.
Le 2 mai.
Bah, le 2 mai 22.
Vous reviendrez nous parler
de
cet ouvrage. Merci beaucoup d'être venu évoquer si joyeusement.
Merci de l'évoquer, elle serait très contente qu'on parle autant d'elle comme ça.
Et que le New York Times lui consacre une partie de sa une.
La vache.
La vache. Ça dit tout de l'importance qu'elle avait. Exactement. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir. Mathieu, un peu de politique. Voilà. La gauche partira-t-elle aux législatives sous une bannière commune?
L'accord est tout proche. C'est ce qu'on entend à volonté. Un accord conclu entre les écologistes et les insoumis déjà cette nuit. Manque les socialistes et les communistes. Les discussions sont en cours. Mais pour comprendre l'urgence, écoutez ces cadres mélenchonistes hier lors de la manifestation du 1er mai. Ils commenceraient presque à s'impatienter.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça avance. Parce que nous sommes des gens déterminés. Quand nous décidons une chose, nous le faisons.
C'est concret, est-ce que vous déplorez le fait que vous n'allez pas défiler derrière une bannière commune avec le PS et ELV?
On aurait préféré de manière ou d'une autre se rassembler, mais c'est pas grave. Un 1er mai, ça n'empêche pas qu'il va y avoir beaucoup de monde.
Je pense que nous, on fait notre part du travail, y compris en donnant des garanties sur ce qui a pu nous être reproché un peu en boucle et de façon un peu flottante même.
Si ça ne finit pas cette nuit, c'est que ça veut dire que ça ne finira jamais. Alors, nous ne nous prêterons pas à une interminable politique qui nous ridiculiserait.
Les groupes de gauche réunis, mais chacun dans leur cortège hier, forcément, il y a eu quelques échanges. Iban Raïs et Audrey Payas ont pu saisir ce militant Europe Écologie Les Verts qui interpelle le premier secrétaire du PS.
Les partis ont de raison d'être qu'à partir du moment où la population est derrière.
Et, vous écoute,
et actuellement, la population est derrière la France insoumise. Entendez, Union populaire, on en fait tous partie. Donc soyons forts et cassons la puissance de nuisance de Macron, quoi.
J'ai la ferme intention de conclure avec lui, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Fabien Roussel, un accord qui soit un accord historique et qui permette à la gauche de pouvoir répondre à l'attente extraordinaire qui est celle des Françaises et des Français aujourd'hui.
Jean-Baptiste Marteau, on entend le mot à propos de cet accord à venir. Si la gauche part rassembler aux législatives, est-ce que c'est, à proprement parler, historique ?
Clairement, un accord qui va de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste, ça fait quand même grand écart. Ça, oui, c'est clairement c'est une première, mais il y a quand même des précédents. 36, évidemment, le Front populaire. L'accord allait même jusqu'aux syndicats et aux associations, quand même. À l'époque, vous avez 72 pour les législatives de 73, 81, 97 pour la gauche plurielle. Attention, là, c'était juste un accord de circonstances, mais il n'y avait pas d'accord programmatique. Mais c'est vrai que ce genre d'accord, en tout cas, ça s'est toujours fait autour du plus modéré, SFIO, PS. Là, le fait que ça se fasse autour du parti, du pôle le plus radical, donc de la France insoumise, ça, clairement, c'est une première à gauche, c'est sûr.
Avec les communistes, l'accord est imminent. Fabien Roussel, lui, le confirmait ce matin. Les discussions se sont poursuivies toute la journée. Elles vont se poursuivre dans la nuit. Et les journalistes campent devant le siège de la France insoumise.
On pensait que sur l'accord, ça irait vite parce qu'en termes de programme, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence.
Ni le Parti Socialiste, ni les Insoumis ne répondent à nos multiples demandes pour savoir où ça en est.
Nous avons pu voir Adrien Quatemins, le député du Nord, il sortait déjeuner et il nous a dit ça avance, ça avance.
Les discussions avec les socialistes qui devaient durer que la matinée, au final, prennent toute la journée.
On scrute pour voir qui se lève, qui est encore sur place.
Pourquoi ça prend autant de temps ?
Parce qu'on ne s'est pas vu depuis 10 ans avec le Parti Socialiste. Donc voilà, on a besoin de discuter.
Bien résumé. Ah oui, quand on ne s'est pas vu depuis 10 ans, il y a des choses à se raconter. Alors, il y a une autre question qui se pose. Tout le monde au PS n'est pas forcément d'accord. Alors là, vous allez voir deux cadres de la France Insoumise qui viennent saluer Olivier Faure hier lors des rassemblements du 1er mai et des militants socialistes. Socialistes hein, derrière qui scandent unité, unité, unité. François Hollande, le plus notable, mais aussi Jean-François Cambadélis, Stéphane Le Foll, beaucoup de socialistes en région aussi qui s'opposent à cet accord avec la France Insoumise. Est-ce que Olivier Faure, il a un mandat pour signer avec les Insoumis, les Verts et les communistes ?
Alors clairement, il y a eu un bureau national du Parti Socialiste le 26 avril dernier qui lui a donné, oui, ce mandat pour qu'il y ait une discussion d'accord. Le texte dit même qu'il n'y a pas de point insurmontable pour négocier avec la France Insoumise, mais on voit bien qu'il y a déjà beaucoup d'élus locaux du Parti Socialiste qui n'ont pas du tout envie de signer parce qu'ils n'ont pas du tout envie de renier 50 ans d'engagement du Parti Socialiste. Quand on va sur l'Europe, par exemple, sur les 32 heures, sur le sérieux budgétaire, enfin j'en passe, il y a un socialiste qui me disait tout à l'heure, on va mettre beaucoup, beaucoup de poussière sous le tapis si on arrive à un accord. Si accord il y a, en tout cas, il va laisser des traces au Parti Socialiste pour les jours et les mois qui viennent. Un Parti Socialiste qui est déjà mal en point.
On a des équipes de C'est à vous qui campent devant le siège d'Insoumis.
Non, on voit de temps en temps, nous.
Ah oui, on est trop beaux.
On est trop sympa.
On est vraiment trop beaux.
On a quelques horaires, donc on se dit que ça ne sert à rien d'y passer non plus toute la journée.
On est très sympa. Politique toujours, ils sont au gouvernement aujourd'hui, mais comptent bien mouiller le maillot aux législatives.
Des ministres candidats, on voit sur cette carte, alors je ne vais pas tous les citer, certains promettent des combats plus durs que d'autres. Éric Dupond-Moretti, par exemple, Agnès Pannier-Runacher, Laurent Pietraszewski, qui vont batailler en des terres plus favorables au Rassemblement national. On retrouve Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran aussi, qui sont candidats, des poids lourds du gouvernement. Des bouchons en Ile-de-France, vous le voyez. À noter toutefois, Amélie
Il y a des bouchons.
Il y a beaucoup de monde sur la petite couronne, si j'ose dire. Mais à noter tout de même Amélie de Montchalin et Nadia Hay, qui sont dans des circonscriptions, qui ont placé Jean-Luc Mélenchon.
Ah, on les envoie un peu, c'est de la chair à canon, quoi.
Il faut se bagarrer. L'idée, c'est de se bagarrer, c'est jouable quand même. Alors du côté de la majorité toujours, on apprenait que Michel Denisot a été approché pour briguer une circonscription chez lui à Châteauroux. Hein, l'ancien dirigeant de Canal+ et ancien patron du PSG a décliné la proposition et il s'est fendu de ce tweet. Je suis candidat à la montée de la Berrichonne en Ligue 2 la saison prochaine et c'est tout. Référence au club de Châteauroux dont Denisot est l'actuel président. Un dernier mot de politique et des élections avec une annonce ce matin. Jean Lassalle ne se représentera pas dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques où il était élu sans discontinuer depuis 2002. Jean Lassalle qui a rassemblé 3,13% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. Il a expliqué sa décision ce matin.
Au vu de ce que je vois de l'évolution de notre pays qui s'effondre sous nos yeux, j'ai décidé de ne pas me représenter à cette élection législative sur cette circonscription. Et il m'a semblé que mon rôle était de tenter de faire autre chose tellement la situation est grave.
Et comme toujours avec Jean Lassalle, l'interprétation est assez libre.
On ne sait pas ce qu'il va tenter alors.
Non, pas encore.
D'accord. On ouvre un dossier aérien pour dans le 5 sur 5, ce
oui,
soir, Mathieu.
Avec d'abord à Tel Aviv, le prix des touristes les plus idiots, sans doute. Une famille américaine qui se promenait en vacances en Israël lorsqu'ils ont découvert un obus. Oui, cet obus que vous voyez, qu'ils souhaitaient rapporter chez eux en souvenir. Quelle bonne idée que de placer un obus non explosé dans ses bagages avant de prendre l'avion. Dans n'importe quel pays, en Israël en particulier, sans doute. Vous imaginez la scène. Évacuation de la zone d'embarquement de l'aéroport. Panique totale. L'annonce a provoqué une vague de panique parmi les passagers. On s'éloigne de la zone, c'est bien normal. On court dans tous les sens. Il y a un passager qui a été blessé, qui a dû être hospitalisé suite au mouvement de panique de la foule. Je continue, on est toujours dans l'aérien, c'est moins grave.
Incroyable.
Moins idiot sans doute. La compagnie aérienne australienne Qantas qui vient d'annoncer la commande de 12 Airbus à 350 000. Mais surtout, la compagnie annonce ainsi le vol le plus long du monde. Un nouveau record pour un Sydney-Londres. 17 750 km. C'était un vol direct de 19h19. La compagnie affirme qu'avec ses avions désormais, toute ville sera à un vol seulement de l'Australie. Il y avait New York aussi, c'est sans doute l'animation que vous venez de voir à l'écran. Mais après, il reste que 20 heures d'avion, c'est long. Alors pour passer le temps, inspirons-nous du personnel de bord de cet avion américain à Chicago. Un vol retardé, coincé au sol. Alors les stewards et hôtesses ont organisé une course de papier toilette pour occuper les passagers. Regardez, but du jeu très simple, de l'avion à l'arrière du véhicule, dérouler le papier toilette le plus vite possible, le passer à son voisin de derrière sans le déchirer.
Mais il n'y en avait plus après.
Sans que vous avez envie de jouer. Mais moi, j'ai un autre jeu pour vous, soyez patient. Mais d'abord, la marque Red Bull qui s'est lancée ce défi, raté, je vous le dis d'avance, même s'il n'y a pas eu de drame, on a échangé nos avions. On est toujours dans l'aérien, au-dessus du désert de l'Arizona. Deux pilotes qui devaient quitter leur engin en plein vol. Ça, c'était la semaine dernière. Vous avez bien entendu sauter d'un avion à 14 000 pieds au-dessus du sol, avion en plein piqué. L'idée était ensuite de rejoindre l'autre avion et d'en reprendre le contrôle, de le poser au sol. Je ne sais pas d'où sortent ces idées. Un seul des deux pilotes a réussi. Rien ne s'est passé comme prévu. L'un des deux avions s'est mis à vriller. Vous allez le voir tournicoter. Le pilote en chute libre n'a jamais pu l'atteindre. Il a dû terminer sa descente en parachute. Image impressionnante toutefois, sans doute ce que recherchait la marque de boissons énergisantes qui sponsorise ces événements. Est-ce que c'est réussi, raté, à moitié réussi, à moitié raté, une fois au sol? Les deux pilotes qui sont par ailleurs cousins avait l'air plutôt content d'eux quand même.
Ah bon?
Qu'est-ce que c'est? C'est possible.
I mean, we're pushing boundaries out here. And what's great is I jumped from one, I got in the other one, we landed, I landed safely, Andy landed safely under a parachute, the plane landed under a parachute, all of our safety protocols worked.
That everything should have been good to go. For some reason, it wasn't that way, but at the end of the day, we're both here, we're both good to go, everybody's safe and sound, and I guess that's the important part.
Et vous voyez là l'avion qui n'a jamais retrouvé.
Oui.
Sans doute un peu trop. Ça. Un crash, quoi. Sachez qu'il y a une enquête qui est lancée par la FAA, l'instance américaine de surveillance du secteur aérien, qui avait interdit cette tentative de cascade et qui a promis donc une
enquête. Et bientôt cette boisson.
Qui sera interdite dans la foulée. Il y avait un concours d'avion en papier, parce qu'il y a des championnats du monde d'avion en papier. On ne peut pas se quitter sur une image de.
On doit avoir une image du lancer, voilà, des lancers d'avion en papier.
Il y a des championnats du monde de lancer d'avion en papier.
Deux catégories, le lancer en longueur et le temps de vol en l'air.
Et les avions sont fabriqués en PQ?
Et non, feuille A4, 100 grammes. C'est très précis comme règle.
Et moi qui m'ennuie, le dimanche.
Je vous apporte du papier, Pierre.
Il faut vous inscrire à ce championnat du monde, Pierre. Il faut vous inscrire. Alors, qui a gagné ce championnat du monde, la France ou pas?
Le championnat du monde arrive, c'est le 10 mai. C'est dans 10 jours,
on a qualifié les
Français.
Là.
On a un record de France, ça y est, ça c'était les qualifications à Toulouse. Un jeune Français.
On a hâte de voir la finale.
Très sérieusement. Record de France à 40 mètres et 71 cm.
Ah oui, donc on peut faire un podium. Écoute, on suivra avec beaucoup d'intérêt ces championnats du monde d'avion en papier. Merci, cher Mathieu. Merci encore, Pierre Palmade, d'être venu ce soir. Merci, Bertrand. À très bientôt sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Thierry Ardisson, est-ce bien la peine de le présenter? Il sera là dans quelques instants, il revient ce soir à la télé. Voilà. Bon, ça part en l'air, mon truc.